Heureux d'être encore avec vous cet après-midi et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. On va continuer sur ce thème du Saint-Esprit. On a vu ce matin de l'importance de pouvoir accueillir cette personne dans notre vie. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un fluide quelconque. Ce n'est pas juste ça, non, c'est une personne à part entière. Et on veut la connaître, elle qui nous connaît très bien et qui lit dans nos cœurs le plus profond et qui surtout aussi connaît les profondeurs de Dieu et connaît tout du Seigneur. Ça va? Vous n'êtes pas en pleine digestion? Tout est bien? Non, les chats en plus nous ont aidés, c'était bien. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu nous aide à pouvoir recevoir ce qu'il a prévu pour nous cet après-midi. Je vais aller un peu plus loin et aller plus précisément sur les actions du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons soif que notre vie soit différente de celle qu'on avait avant. Vrai ou pas? Il y en a qui voudraient juste une vie comme avant? Non, hein. On a compris qu'elle était vide, qu'elle n'était pas comme Dieu l'avait prévu, comme Dieu avait voulu qu'on la vive lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a créé les hommes, et qu'elle était parfois vide de sens, parfois même soumise à certaines souffrances inutiles, parce qu'il y a quelques souffrances qui nous apprennent des choses, d'ailleurs un peu tout nous apprend des choses, mais il y a des souffrances vraiment qu'on pourrait s'éviter. Et lorsqu'on vit sans Dieu, on est comme aveugle, on tâtonne et puis on se fait bien du mal. Mais quand on a le Seigneur qui rentre dans notre cœur, d'un coup, la vie prend du sens. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils vivent et quand ils rencontrent Jésus, d'un coup, la vie prend du sens. On sait pourquoi on existe. On sait pourquoi Dieu nous a créés. On sait pourquoi je vis. Il y a un but, il y a quelqu'un qui m'a créé et la Bible nous dit qu'on est créé pour sa gloire. Pour sa gloire. Beaucoup de personnes, malgré le fait qu'ils ont rencontré Jésus, oublient au bout d'un moment ça et croient qu'ils vivent pour eux-mêmes. Et du coup, ça en fait des tristes chrétiens. Et des chrétiens tristes. Le Seigneur, il veut donner de la joie dans notre cœur. Il veut donner de la saveur à notre vie. Et ça passe par le fait de comprendre qu'on existe pour lui. On a été créé pour lui. Et pour qu'on arrive à vivre pour lui, on a besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il ne reste pas sans rien faire, mais il a plein d'actions. Il a plein de choses belles qu'il veut faire dans notre vie pour que notre vie nouvelle ne soit pas semblable à la vie d'avant. Ça ne vaudrait pas la peine, hein. Si on avait donné notre cœur au Seigneur, que Jésus est rentré dans notre vie et que la vie ne change pas, qu'on vit pareil avec les choses viles de ce monde, eh bien, ça ne vaudrait pas la peine. Et du coup, il vaudrait mieux retourner dans le monde à ne pas s'inquiéter de notre avenir. Ça serait beaucoup moins contraignant. Mais on a compris qu'on ne vit plus pour les mêmes choses. Et dans Actes 1:8, on l'a lu ce matin, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, il a donné un sens à notre vie, on vit, on a un but, glorifier Dieu dans notre vie et que le caractère, la personne de Jésus-Christ se manifeste au travers de nous. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis cet autre texte dans 2 Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle création ». Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'il y ait du nouveau dans ta vie. Il faut que tu croies que Dieu veut faire des choses nouvelles, des choses belles, et il peut les faire par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tant que tu ne cherches pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tant que tu ne demandes pas au Seigneur, remplis-moi, baptise-moi dans le Saint-Esprit, accorde-moi la présence de cette personne tous les jours de ma vie, aide-moi à avoir une relation avec toi au travers du Saint-Esprit, tu vas vivre une vie qui passe à côté de ces nouvelles choses que le Seigneur veut te donner. Dieu veut une nouvelle vie pour toi. Il y a quelque temps, je visitais une mamie qui disait être chrétienne et qui allait à l'église depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et là, voilà qu'elle se retrouve en maison de retraite. Et elle a plus de 80 ans. Elle a une santé qui est en train de diminuer, de se dégrader, pas possible. Et voilà qu'elle me parle. Et elle était complètement aigrie dans son cœur, triste, frustrée. Elle dit, mais je ne comprends pas, Jérémie, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur, il ne me donne pas plus de tranquillité, plus de joie, plus de tout ça. Pourtant, j'ai donné mon cœur à Jésus, tout devrait être formidable, etc. etc. Et puis en parlant avec elle, elle m'a raconté comment à un moment donné, les choses ont basculé. Elle a rencontré Jésus, elle a reçu le pardon de ses péchés, elle a commencé à avancer, elle a vécu des choses avec Dieu, elle a voulu être remplie du Saint-Esprit. Et à un moment donné, Dieu, par un don spirituel dans l'Église, lui a dit « Il faut que tu pardonnes à ton fils ». Et elle a répondu, jamais. Il faut y arriver, hein. Dieu te parle, elle sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Elle dit, Seigneur, tu le sais, c'est trop fort pour moi, jamais. Du coup, elle a continué à chercher toute sa vie. La plénitude de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, des choses comme ça. Elle était frustrée, elle est passée à côté de tellement de choses. Et encore à 80 ans, quand je lui dis, mais alors, sœur, quand vous me dites que c'est parce que vous avez refusé le pardon et qu'il est écrit que si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné, etc., que Jésus, Dieu nous demande de pardonner comme on a été pardonné, et que c'est à cause de ça, vous le dites vous-même, que ça a été bloqué, pourquoi vous ne pardonnez pas à votre fils ? Elle me dit, parce que si je lui pardonne, ça veut dire que c'est lui qui a raison. Plus de 80 ans. Aujourd'hui, elle est décédée. Elle est partie comme ça. Le Saint-Esprit veut venir dans ta vie. Et il veut faire que ta vie soit nouvelle. Ça serait bête d'avoir connu Jésus-Christ. Tu as compris que tes péchés étaient graves, qu'il t'envoyait en enfer. Que Jésus soit mort sur la croix pour tes péchés. Qu'il ait dit, allez, on repart à zéro, on écrit une page nouvelle. Toutes choses sont nouvelles. Tu es une nouvelle création. Je pars à zéro avec toi. Et bien on dit, ok, mais moi, je ne tourne pas la page sur le passé. Moi, je refuse de faire ceci, je refuse de te faire confiance. Je refuse ça et que le Seigneur ne puisse rien faire dans notre vie parce qu'on ne le laisse pas agir. C'est important de dire, Seigneur, viens, rentre en moi. Aide-moi à me débarrasser de peut-être tous mes non-pardons, toutes mes frustrations, tous mes faux espoirs, toutes les choses aussi, les péchés, les addictions, les choses qui seraient tout ça, on l'a vu ce matin, pour rentrer dans les choses nouvelles que tu veux mettre place dans ma vie, en place dans ma vie. Le Saint-Esprit veut écrire des nouvelles choses sur la vie nouvelle que le Seigneur te donne. Et si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'abandonnes pas le non-pardon, les choses comme ça, tu ne peux pas rentrer dans ces choses. Maintenant, une fois qu'on y rentre, qu'est-ce que le Seigneur veut faire ? Je trouve dans la Bible deux listes de 9 choses. Si je vous donne ces indices, ça. Deux listes de 9 choses que le Saint-Esprit fait dans une vie. À quoi vous pensez ? Oui ? Les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. C'est incroyable. Il y a deux listes. On les lit ensemble, vous voulez bien ? Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, on trouve la première liste. Des manifestations que le Seigneur opère par le Saint-Esprit dans nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 4. Parce que le Seigneur, il veut faire de toi une vie nouvelle, il veut te donner une vie nouvelle et écrire des nouvelles choses avec toi. Il veut que tu sois un serviteur, une servante, un témoin de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. D'accord ? Donc l'objectif de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit pour que notre vie témoigne de qui est Christ. Sa pureté, sa sagesse, sa puissance, ses projets, sa divinité, etc. Et le Seigneur veut nous rendre participants de la nature divine et le Saint-Esprit fait des actions dans notre vie. Et il y a une première liste, il y a diversité de dons. Vous l'avez pareil, vous aussi ? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et là, on a une première liste. Cette première liste, c'est les dons spirituels, ce qu'on a appelé les dons spirituels, les charismes, parce qu'en grec, c'est le mot charis, c'est ça, hein ? Charis, et qui veut dire les opérations, les manifestations, ce que le Seigneur, l'Esprit manifeste dans notre vie, et il y a diversité de manifestations. On en a lu, il y en a 9. Et le Seigneur veut donner ces choses. À quoi ça sert que le Seigneur donne les miracles, par exemple, d'après vous ? Attester, confirmer, manifester sa gloire, ok ? C'est ça ? Sa gloire, qu'est-ce qu'on entend par gloire ? Sa puissance, son autorité, le fait que ben, il dit un mot et la chose s'accomplit, etc. Sa puissance et puis sa grâce, tout ça. En fait, le Seigneur, il donne de pouvoir vivre des guérisons, de pouvoir vivre des miracles, de pouvoir vivre ces choses-là, eh bien, pour que nous soyons des vitrines de ce que le Seigneur est capable de faire et voudrait faire dans le monde, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa puissance, tout ça. Et notre rôle à nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir vivre les dons spirituels. Est-ce que tu as soif, mon frère, ma sœur, mon ami, de vivre ces miracles, ces choses surnaturelles que le Seigneur veut distribuer à certains, comme il le veut, dans l'Église? Tu le veux? Il y en a qui veulent vivre. Qui aimerait voir des guérisons? On est d'accord, hein? Ok. Si on... Même demain, hein, les pieds avec, on lève tout. On voudrait voir. Vous avez déjà vu des guérisons? Moi, j'ai vu ça. Papa, il arrive et dans une soirée, c'était dans une soirée, une réunion, petite réunion dans une petite ville à Bédarieux, près de Béziers. Et il y avait une réunion comme ça, une petite annexe, une toute petite salle qui ne payait pas de mine, un peu avec ces chaises-là, vous voyez, juste ce nombre-là. Et il prêche et à la fin, il dit, voilà, si quelqu'un veut être guéri, qu'il s'approche, on lui imposera les mains. Et le Seigneur, eh bien, il bénira cette personne. Et je vois une mamie qui s'approche, qui était courbée, comme on le lit dans la Bible. Et puis il prie et la mamie, elle repart debout. Moi, je suis content d'avoir vécu ça. J'étais petit et tout, et ça m'a marqué. Je dis, oh, mais c'est vrai cette affaire et tout. Ça ne m'a pas empêché de remettre ça en question plus tard, hein, et de faire mes expériences. Mais au moins, on voit Dieu agir. Et je trouve que c'est bien ça. On va dans la rue, papa, il faisait ça, les cafés discussion. Et il y avait un endroit en Tibes, il y avait un café discussion. On ouvrait ce café et il y avait un café qui était offert et on discutait avec les gens. Et les gens venaient boire gratuitement quelque chose, pas d'alcool, mais simplement un café. Et il y avait un temps d'échange avec ces personnes et c'était l'occasion de témoigner. Mon père, il me prenait, j'étais tout petit, je me rappelle, il me prenait par la main et il m'emmenait. Et quand on allait dans la rue des fois, on sortait du café quand il n'y avait personne. Et il rencontre un homme qui avait une béquille comme ça et qui boitait. Et il parle avec cette personne et cette personne, elle dit, mais j'ai une vitre qui m'est tombée dessus, j'ai des bouts de verre et aujourd'hui, on n'arrive pas à me refaire la jambe, je ne peux pas marcher. Et mon père, il parle avec lui, tout ça, de Dieu. Il dit, mais si Dieu était vivant, eh bien, il me guérirait. Et mon père, il l'a pris au mot. Il dit, ah bon? Vous dites ça? Et moi, je vous dis que Dieu peut vous guérir. Il dit, eh bien, alors que Dieu le fasse. Alors mon père, il a dit, venez, on va prier. Il a prié. Puis il a laissé la personne s'en aller. Et la nuit, cette personne s'est réveillée. Elle est allée boire un peu d'eau pour se rafraîchir. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à crier. Mais je suis guérie. J'ai mon miracle. J'ai mon miracle. Et la personne était là. Elle disait, mais j'ai mon miracle. Ma jambe est guérie. Et il est revenu après au café pour dire à mon père, mais j'ai été guéri. Et regardez, maintenant, je marche. J'ai plus besoin. Il y avait encore les cicatrices du verre, mais j'ai plus besoin. Sauf que, derrière, cette personne n'a pas voulu se convertir. Elle a dit, non, maintenant que je vais bien, pourquoi j'aurais besoin d'aller à l'église? Ça nous montre que les miracles ne convertissent pas les gens, mais manifestent la puissance de Dieu. Des fois, des gens ont des miracles, demandent les miracles, et nous, on prie, on dit, Seigneur, guéris. Et quand la personne est guérie, ça ne change pas sa vie, ce n'est pas grave. Ils ont reçu un témoignage. Et en son temps, on prie pour que le Seigneur se rappelle à eux et que cette manifestation de Dieu qu'ils ont vécue puisse les bénir. Personnellement, j'ai prié pour des personnes, je me rappelle à l'orgue, une petite réunion de maison, pareil, on était là, pas de maison, une petite annexe dans une salle qui était prêtée par la mairie. Il y a un frère qui s'arrive, Olivier Goulet, il s'approche et dit, demain je dois être opéré, j'ai une tumeur là dans la bouche, il y a quelque chose qui est là et demain j'ai une opération, j'ai un peu peur et j'aimerais qu'on prie pour moi. Et c'était la première fois que j'ai imposé les mains à quelqu'un. Je ne voulais pas imposer les mains à quelqu'un parce que j'ai dit, mon père est pasteur, je l'ai vu imposer les mains, je ne veux pas faire comme lui. J'avais l'impression de faire du mimétisme, vous voyez. Et j'avais une gêne. Et j'avais dit à Dieu, ah non, non, je laisserai les autres imposer les mains. Pourtant, je suis rentré dans le ministère comme ça. Et puis au bout de quelques mois, je prépare ma prédication et le Seigneur me dit, ce soir, il faut que tu pries pour les gens. Vraiment, cette conviction, en tout cas, que j'ai dans mon cœur, je le reçois de Dieu et je dis, ok, Seigneur, bon, je le fais. Et je prie pour cette première personne et le lendemain, il appelle, le lendemain matin, il dit, écoutez, je ne sens plus rien, je vais aller à l'hôpital, mais il n'y a plus rien dans ma bouche. Il va et dit, mais monsieur, vous n'avez rien? Vous êtes sûr que c'est vous qui êtes venu et tout? Il dit, mais non, rien, pas d'opération, plus rien. Il a été guéri. Merci Seigneur. Hein. Voilà. Et ça ne vient pas de nous. Hein. Nous, on n'est rien. J'aimerais aussi parler de ça, mais Dieu ne manifeste pas ses dons et ne vous permet pas d'être utile dans sa grâce et par le Saint-Esprit parce qu'on le mérite, parce qu'on est meilleur, parce qu'on est une élite. Il le fait parce qu'on a la foi et qu'on le laisse faire. Et qu'on lui rend gloire surtout. Parce que le jour où on oublie de leur rendre gloire, c'est terminé. Même le diable, il peut prendre le relais, vous savez. Parce que le diable aussi fait des miracles mensongers. Et le jour où on glorifie plus Dieu, on lui rend plus gloire à lui, eh bien, on donne accès au diable. Le diable peut nous tromper en nous faisant croire qu'on a une puissance certaine, mais c'est plus Dieu qui agit, c'est lui qui prend le relais. Toujours est-il que le Saint-Esprit, lui, il veut nous utiliser pour ces choses. Et dans le chapitre 14, vous avez au verset 1, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Et le chapitre termine, donc le premier verset et le dernier verset, ainsi donc, frères, aspirez aux dons, par exemple, de prophétie. Et au milieu, verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors il y a aussi des raisons pour lesquelles je veux vivre ces choses, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie, mais aussi pour l'édification de l'Église. Parce que si moi j'entends qu'un tel a vécu un miracle, ça m'encourage, oui ou non? Vous êtes jaloux? Quand vous entendez que l'un est guéri et pas vous, vous dites « Oh Seigneur, c'est pas juste !» Mais que ça vous encourage à chercher aussi. Hein. Mais plus que ça, à se réjouir du bien que le Seigneur fait à l'un, et puis il donne à l'un quelque chose et il donne différemment à l'autre, mais tous en est utile. Et la suite de ce texte du chapitre 12 dit « Il donne comme il veut parce que nous sommes un corps avec des membres différents. » Il y a un, c'est comme un œil, une main, etc., un pied, et je ne peux pas dire l'œil, il ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni le pied, etc. On est tous liés et on est tous importants. Et dans l'Église, tous les frères et sœurs, tous les chrétiens, tous les membres sont importants et précieux. Les nouveaux comme les anciens. Est-ce que dans cette Église, tu es d'accord, Jean-Marc, que les anciens ils sont précieux aussi? Bon, les nouveaux aussi. Hein. Et tous, on doit s'encourager. Les anciens, ils sont un modèle pour nous. Ils nous montrent que Dieu, ça vaut la peine de le suivre. La preuve, ils sont là depuis un moment, ils sont toujours là, ils continuent. Vous avez quelque chose à nous apporter, continuez, vous qui nous avez précédés. On veut prendre exemple de vous. Gardez, excusez-moi l'expression, mais la pêche. Gardez le désir de vivre des choses avec le Seigneur, la soif de vivre des choses avec Dieu. Vous avez eu votre temps de gloire aussi, vous avez vécu des choses, mais ne soyez pas frustrés si on vit moins. Au contraire, aspirez à ces choses et encouragez-nous à les vivre et continuez à les manifester dans l'Église. Ça va nous encourager. Et les jeunes, ne cherchez pas juste à faire que ce soit cool. Continuez à chercher le Seigneur. Les mêmes choses qui ne changent pas depuis des milliers d'années. Il y a des fondamentaux qui ne font pas abandonner. Aujourd'hui, le parler en langue, ça devient rare. Ça disparaît. On a plein d'églises où les temps dans les cultes où il y a des dons spirituels, ça disparaît. On veut de la louange, de l'adoration, mais on veut de moins en moins, on permet de moins en moins de temps où on laisse les dons spirituels se manifester. Les prophéties, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, toutes ces choses. Aspirez pourtant, le Seigneur il nous dit au travers de Paul, aspirez aux dons spirituels. Et dans nos rencontres, on doit continuer à dire, Seigneur, j'aspire à les entendre, j'aspire à les vivre, mais j'aspire à les manifester. Seigneur, sers-toi de moi. Je suis un vase et je veux que tu te serves de moi. Remplis-moi pour que je puisse manifester ces choses, pas pour ma gloire, pas pour mon bonheur ou répondre à mes besoins à moi, mais pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune qu'on doit y aspirer. Et puis dans cette liste, on voit beaucoup de ce que Dieu fait au travers de moi par le Saint-Esprit. Je donne une parole de connaissance, je donne une prophétie, je manifeste un miracle, l'opération des miracles, les guérisons. C'est beaucoup de choses qui se manifestent et qui sont extérieures à moi. J'apporte quelque chose à l'extérieur. Mais il y a une deuxième liste. C'est dans Galates 5, 22. Vous avez un bon pasteur, super. Galates 5, 22. Juste avant, verset 19, il est dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Je nous rappelle qu'il s'adresse à des croyants, à des gens qui sont de la maison de Dieu, pour les exhorter à abandonner cette ancienne manière de vivre, ne pas les garder, mais au contraire, les rejeter loin d'eux. Mais, en comparaison, le fruit de l'esprit, c'est la dispute, la colère, l'animosité, c'est ça? Ah non, c'est quoi alors? Premier, l'amour. Qui a besoin d'amour? On ne fait que chanter des chansons d'amour dans le monde. C'est que ça doit manquer à fond si on le chante tellement, quoique c'est parce qu'on sait que c'est important dans notre vie, l'amour. Moi j'ai besoin d'amour, c'est pas que les filles hein, ou les femmes qui ont besoin d'amour, les hommes aussi. On a besoin de se sentir aimé pour arriver à aimer. Beaucoup n'arrivent pas à aimer l'autre parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ça change d'ailleurs quand vous rencontrez l'amour de Dieu manifestant Jésus. D'un coup, vous vous sentez aimé. Ah bon, j'ai de l'importance ? Ah bon, j'ai de la valeur ? C'est Nicky Cruz. Vous avez peut-être entendu parler, hein, David Wilkerson ou Nicky Cruz, La Croix et le Poignard. Il y a un film qui a été fait, qui témoigne. Nicky Cruz, il disait, mais moi, je suis né dans une famille de sorciers. Et c'était les ténèbres. Et on m'a toujours dit que je valais rien, que j'étais un échec, que ma maman ne m'a jamais voulu, etc. On parlait tout à l'heure de ces personnes qui effectivement naissent, ces enfants qui grandissent dans un foyer où ils sont considérés comme un accident de la vie. Et il pensait que personne ne l'aimerait. Il est devenu haineux, complètement haineux, incapable d'aimer, handicapé d'amour. Et il avait de la violence, de la haine, impossible d'aimer qui que ce soit, même pas une femme ou quoi que ce soit. Il était violent envers ses amis, ses petites amies, comme il le disait. Et quand il rend ce témoignage, il dit, mais quand je me regardais dans le miroir, j'étais vraiment là, comme un perdu, comme un mal-aimé. Et un jour, il y a un homme qui est venu et qui m'a dit, mais Dieu t'aime. Il veut changer ta vie, il est mort à la croix pour toi. Ça l'a tellement agacé, tellement il ne pouvait pas concevoir l'amour. Il était handicapé, il y avait un handicap, il ne pouvait pas concevoir l'amour. Parce que ses parents ne se sont pas aimés, parce qu'il n'a jamais vu l'amour dans un foyer. Il n'a pas connu l'amour. C'était à qui sort le poignard le plus vite, qui était le plus fort. Et donc quand on lui disait ça, il a dit, mais moi je vais te couper en morceaux. Et David Wilkerson lui dit, chaque morceau de moi te criera que Dieu t'aime. Ça l'a choqué, ça l'a agacé jusqu'au bout, à un moment donné où Jésus s'est révélé à son cœur. Il a compris, il a découvert l'amour, et alors sa vie a changé. Il a demandé pardon à celle avec qui il était. Ils se sont mariés, ils ont fondé un foyer, et puis sa vie a été changée. Et lui qui ne savait pas ce que c'était d'aimer, il a appris à aimer. Parce que Jésus est venu dans son cœur, et Jésus s'est manifesté et est venu par le Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit, et l'amour a été créé dans son cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, on a besoin de joie, hein, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, il y a une autre liste de 9 choses qui ne parlent pas forcément d'œuvres que je vais faire, de paroles que je vais dire, de miracles que je vais opérer, mais plutôt du caractère. Il y a des choses qui parlent de ce qu'on va faire par la grâce de Dieu et par l'opération du Saint-Esprit. Et puis il y a cette autre liste qui nous parle de qui je suis et qui je deviens par l'action du Saint-Esprit. Et je voudrais juste nous mettre en évidence un petit peu cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit veut te faire faire des choses, te faire vivre des choses par des opérations, mais aussi il veut façonner le caractère de Christ dans ta vie. Un caractère d'amour, pas l'amour selon le monde. Un caractère de joie, joyeux, pas la joie selon le monde qui dépend des choses d'ici-bas. Et tout ce qu'on a vu, tous ces 9 fruits de l'esprit qui ne parlent pas de choses naturelles, pas des choses qui viennent naturellement ou que les uns en ont, les autres ont moins. Ce n'est pas des choses gentilles de ce monde, c'est des choses incapables de vivre dans ce monde. Que l'homme n'a pas connu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, comme dira Paul. Je vous enseigne des choses, et la Bible nous parle de choses spirituelles. Une joie qui ne vient pas parce que tu as une promotion, ou un 13e mois. Une joie qui ne dépend pas du fait que les gens sont gentils ou méchants avec toi, mais une joie qui vient que tu es sauvé. Tu sais à qui t'appartient, tu sais où tu vas. Tu vas au ciel. Il y en a qui vont au ciel ? Ok, hein, on est d'accord. Donc, cette joie qui est là, cette paix qui est là, soyez en paix autant que cela dépend de vous. Il y a des gens, ils ne voudront pas de la paix, mais malgré tout, vous continuerez à vouloir et à proposer la paix. Seigneur, donne-moi ce caractère, la patience. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite, hein, parce que j'en ai besoin. Comme ça qu'on dit des fois. Hein. Seigneur, il nous apprend la patience. Et comment il nous apprend la patience ? Par l'épreuve. C'est Jacques qui le dit. Hein. Regardez toute épreuve comme un sujet de joie parfaite ou complète. Car l'épreuve produit la patience, et la patience, elle amène en nous la maturité. Perfection. Elle nous rend parfaits. Le Seigneur, il veut nous enseigner ces choses. Et on parle beaucoup des manifestations spirituelles, des dons spirituels, vous comprenez, les miracles, tout ça, et on en veut plus que jamais. Mais est-ce qu'on veut aussi que le Seigneur façonne le caractère de Jésus dans ma vie ? Parce qu'on le rappelle, l'objectif premier de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes parlent de miracles que Dieu a fait, que Dieu a opéré, tant mieux, merci Seigneur. Mais dans leur caractère, il va y avoir une carence. Et le Seigneur, il dit non, il faut que les deux aillent ensemble. Vous savez, il y a 9 dons spirituels et il y a 9 fruits de l'esprit. Les deux sont équilibrés. Il n'y a pas plus de fruits et moins de dons. Il y a autant de dons que de fruits. Il y a autant de travail à l'extérieur que de travail à l'intérieur par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a autant à faire à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur auprès des autres pour que tu sois un bon témoin. Et on pourrait peut-être passer beaucoup de temps à se dire, mais Seigneur, tiens, il a fait ça dans ma vie, il a opéré ça, tout ça, mais aujourd'hui en 2024 et dans la suite de ces semaines, de ces mois, de ces années qui vont suivre, est-ce que tu veux encore que le Seigneur manifeste la puissance de son Saint-Esprit dans ta vie? Cette puissance qui te fait faire des choses, mais cette puissance qui te fait être quelqu'un de nouveau. Et que dans l'Église, les gens qui parlent la langue soient aussi des gens qui manifestent le caractère de Jésus-Christ. En tant que pasteur, je ne sais pas si ça t'arrive, mais en tant que pasteur, on est des fois triste de voir des gens qui peut-être parlent en langue beaucoup, mais qui derrière ont un caractère quand même qui n'est pas facile. Un caractère qui ne glorifie pas Dieu. Et peut-être que dans ma propre vie, je veux aussi le faire. Et me dire, Jérémy, c'est bien de parler en langue, d'encourager les gens au miracle, tout ça. Oui, mais Jérémy, est-ce que dans ton caractère, quand tu es tout seul devant tes enfants, tu manifestes le caractère de Jésus-Christ? Quand tu es devant ta femme, est-ce que tu manifestes le caractère de Jésus-Christ? Seigneur, façonne en moi ton caractère et qui tu es. Et dans la Bible, il y a cet encouragement à dire que ce qui se passe à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Il ne faut pas porter un masque. Je crois que le Seigneur, il nous dit, on a la liberté d'être nous-mêmes avec le Seigneur. Profitons-en. On dit, Seigneur, voilà comment je suis. Peut-être qu'on peut faire cette prière encore cet après-midi. Je ne veux pas être très long, mais juste de dire, Seigneur, mais regarde à mon cœur. Sonde mon cœur. Et connais mes voies. Regarde mon sentier. Dirige-moi sur le sentier de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le bon sentier de l'éternité, Seigneur. Sonde mon cœur. Très simple cet après-midi, vous avez vu. Je ne vais pas aller bien plus loin. Vous reprendrez à la maison 1 Corinthiens 12, la liste des opérations du Saint-Esprit, des manifestations, des dons spirituels. Et vous reprendrez Galates 5, 22, la liste du fruit de l'Esprit, des traits de caractère que le Seigneur veut façonner en vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Peut-être qu'il y aura une étude pour chaque don, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais peu importe, vous le reprendrez, vous méditerez ces choses. Mais je veux juste, mon point cet après-midi, la pensée que j'avais, c'est est-ce que vous êtes prêts à comprendre et est-ce que vous réalisez encore cet après-midi que le Seigneur veut vous faire faire des choses? Mais il veut surtout aussi, et en même temps, que vous soyez quelqu'un de transformé. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une page blanche. Mais est-ce que tu vas demander au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, pour que je sois un témoin autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi. Que tout en moi témoigne de Jésus-Christ. Jésus, on n'a pas pu le piéger sur son caractère. Il avait la maîtrise de soi. Ça, c'était un homme. Moi, je le prends comme exemple. Je dis, ça, c'est un homme qui ne s'emporte pas, qui ne râle pas, qui ne crie pas, qui ne se vexe pas. Il y en a qui se vexent. Moi, ça ne va rien. Tu as levé la main. C'est bien. On se vexe. Mais est-ce qu'il n'y a que lui à avouer quand même? Non, hein, on est d'accord. Hein. Ok, c'est bien, tu n'es pas tout seul. T'inquiète pas. Ça, ce n'est pas, l'Esprit de Dieu qui nous rend vexable. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Susceptible, on pourrait dire comme ça. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'en Jésus, je sais qui je suis, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait. Ben voilà. Puis après tout, il y a des gens, ils ne le font pas exprès. Et même si c'est fait exprès, moi, j'ai un défenseur. Et ce n'est pas important ce que disent les autres, bien que la renommée soit importante. Mais du moment que c'est injuste et que ce n'est pas vrai, Seigneur, apprends-moi à ne pas me sentir trop affecté par ce que dirait l'autre. On est forcément affecté, hein. Sinon on serait des robots. Attention qu'on ne devienne pas des robots. Hein. On n'est pas des robots. Le Saint-Esprit ne nous rend pas robots. Hein. Mais qu'on dise, Seigneur, voilà, je veux rester devant toi. Je veux manifester ton caractère. On en a dit des choses sales sur Jésus. Hein. Tiens, c'est par les démons que tu chasses les démons. Jésus a dit, écoutez, si je chasse les démons par les démons, alors le royaume du diable est divisé, il ne subsiste point. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, Jésus, il ne s'irritait pas au point de s'emporter. Et même quand il s'est mis en colère, c'était une sainte colère maîtrisée. Là, j'ai des progrès à faire avec mes enfants. Une sainte colère maîtrisée. Le caractère de Jésus-Christ. Un jour, mon père, il prie. Je le vois dans sa chambre, il prie. Il passe, comme tous les matins, plusieurs heures dans la prière. Il sort. Et là, il voit que j'ai laissé ma chambre en bazar comme d'habitude. Et là, il s'emporte, il dit, mais Jérémy, je te l'ai déjà dit, range ta chambre, tout ça. Et moi, je lui envoie un pic. Ah, ça te sert à ça de passer du temps à prier dans ta chambre ? Merci Seigneur pour nos enfants. J'en ai 6, je suis fou. Ils vont me rapporter. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, des fois, ils savent nous titiller. Et là, je dis ça à mon père. Ah, ça te sert à ça d'aller prier ? Je savais que c'était le truc qui lui ferait le plus mal, vous voyez. Et au lieu de s'emporter en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il part dans sa chambre. Et il ressort. Et écoutez bien, il me dit, Jérémy, pardon. Parce que c'est vrai que le Seigneur, normalement, il crée en moi la patience. Waouh ! Et là, c'est moi qui ai pris un coup. J'ai dit, qu'est-ce que t'es méchant, Jérémy ? Vous voyez, je m'en souviens encore. Alors que ça fait très longtemps. Peut-être 30 ans, que le Seigneur nous aide à manifester son caractère. D'accord ? Et si tu as le caractère, tu verras que le Seigneur aura moins de mal pour te donner le reste, les dons spirituels, les miracles, les prophéties, les paroles de connaissance, toutes ces choses dont l'Église a cruellement besoin. Il est dit qu'un nouveau qui entend une prophétie, sa vie est dévoilée et il sait que le Seigneur est au milieu de nous. Il n'y aurait pas besoin de ça ? Que des nouveaux y rentrent ? Je dis, mais comment la personne, elle connaît ma vie ? Comment elle savait que j'allais venir ? Elle ne savait pas. C'est le Seigneur qui le savait et qui t'a vu. Papa, il rentre pour la première fois dans une église. Et quand il rentre, le prédicateur, il prêche. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il venait d'avoir un accident, il est borgne, mon père. Il venait d'avoir l'œil percé parce qu'il était menuisier et la tête d'un clou en acier a transpercé son œil. Il a perdu son œil. Il rentre dans l'église, il s'assoit au fond, il vient à peine en retard parce qu'il ne voulait surtout pas être vu. Et le prédicateur, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Oh ! Mais comment il savait ? Ça, c'est une prophétie sans le savoir, même en prêchant. C'est incroyable, ça. Il y a besoin de ça, vous ne croyez pas ? Moi, j'ai besoin que Dieu me parle aussi, j'ai soif. Hein. Alors, je compte sur vous. Hein. Continuez à parler, continuez à demander, à aspirer aux dons spirituels. Et le Seigneur va le donner. Mais n'oubliez pas toujours l'équilibre entre ce qui se manifeste à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, ce que Jésus crée à l'intérieur. On prie ? Merci Seigneur encore pour cette simple pensée, Seigneur, qui nous rappelle que tu fais autant attention aux choses qui peuvent se voir par les autres, les manifestations, ce qui sert aux autres aussi, ce qui est un peu surnaturel par des opérations particulières, des paroles surnaturelles, des choses dévoilées comme ça, des prophéties. Tu fais autant attention à ça qu'à mon cœur, qu'à mon intérieur, à mon caractère. Et tu veux autant me faire découvrir ce nouveau royaume, écrire une nouvelle page en me faisant vivre des expériences surnaturelles, des miracles et des choses comme ça, que des expériences du domaine du caractère, Seigneur. Que mon caractère soit en adéquation avec ce que je dis, ce que je fais, Seigneur, même si c'était surnaturel et par ta puissance. Et donne-nous de veiller à ces choses, de garder cet équilibre. Et je le sais, Seigneur, j'ai besoin non seulement de vivre plus de choses surnaturelles et de miracles, de dons spirituels, de parler en langue, de moments de foi particuliers pour des domaines particuliers. J'ai autant besoin de ça que, Seigneur, de ce fruit et de ton caractère en moi. J'en ai besoin non seulement pour moi, mais aussi pour l'Église. On en a besoin pour l'Église, on en a besoin pour nos frères et sœurs, on en a besoin pour notre prochain, on en a besoin pour les perdus aussi, Seigneur, pour être ses témoins. Et on veut vraiment te laisser faire. Et cet après-midi, on veut te prier. Encore, agis dans notre cœur.